Ladies and gentlemen, if you please take your seats.
Messieurs, dames, veuillez vous asseoir. Nous allons commencer avec notre programme immédiatement. Veuillez prendre vos places. J'aimerais présenter le membre du conseil d'administration de l'ICANN, M. Sherine Chalabi. Bonjour à tous. La session qui commence maintenant va vous présenter une mise à jour sur le travail lié au conflit d'intérêts et l'éthique. Je suis accompagnée de deux membres du conseil d'administration qui sont membres aussi du DGC, M. Bill Graham et Ray Pozak, ainsi que notre conseiller juridique, John Jeffries. Quel est notre ordre du jour? Eh bien, nous voulons réviser nos plans et que vous soyez familiarisés avec ce plan. On veut vous donner des mises à jour sur le travail que nous menons. Et puis, nous allons recevoir vos questions. Pour commencer, c'est-à-dire, tout cela a démarré lors de notre réunion à Dakar. On a parlé de conflits et nous avons dit que nous voulions améliorer notre politique concernant les conflits d'intérêts pour mieux gérer les cas compliqués, non seulement les cas ayant trait à des conflits, mais aussi aux perceptions de conflits. Et ce qui est le plus important, c'est d'améliorer le standard pour qu'il n'y ait pas de perception de conflit. Nous voulons également améliorer notre code de conduite. Nous avons donc demandé à plusieurs sociétés de revoir notre travail. Et au lieu d'entrer en détail, moi-même, je vais céder la parole à John Jeffrey qui va nous parler du travail réalisé jusqu'à présent. Merci, Sherine. Actuellement, il y a trois révisions qui sont en cours. La première est faite par M. John Stay, qui va faire une présentation sur les points de travail. Il travaille sur une série de documents ayant trait au conflit d'intérêts et à la révision du code d'éthique. Certaines parmi ces révisions ont été proposées pour le BGC et soumises aux commentaires. La partie 2 appartient à une société dénommée Cooley à Washington qui nous aide à réviser les processus de l'ICANN à partir de différentes perspectives. Nous recevons le conseil institutionnel et on compare l'ICANN à d'autres organisations ayant des situations similaires et on propose des améliorations. Et la troisième révision est menée par un groupe d'experts internationaux qui font la révision des mécanismes des conflits et d'éthique de l'ICANN. Nous avons aussi un représentant de ce groupe qui va vous adresser la parole. Les réussites que nous avons eues, eh bien, tout d'abord, le Conseil a adopté les règles plus strictes pour la considération des conflits liés aux candidatures des nouveaux GTLD, ainsi que la formation du sous-comité du BGC sur le conflit et l'éthique. Ce groupe est formé de trois directeurs indépendants, M. Chalabi, M. Graham et M. Ray Pozak. Ils travaillent avec le BGC sur les conflits d'intérêts, sur les différentes révisions. Tel qu'il a été déjà mentionné, nous faisons la révision des politiques des conflits d'intérêts et les normes de conduite. Et vous savez qu'il existe un document qui sera adressé à toute la communauté. Vous pourrez le trouver d'ailleurs sur le site de l'ICANN. Et finalement, nous avons créé une page de documents de gouvernance où vous trouverez tous ces documents dont je vous ai parlé dans un seul site avec les recommandations pertinentes. Lorsque ces documents ont été incorporés, on n'était pas familiarisé avec toute l'information. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de trouver l'information parce qu'elle se trouve sur un seul site. Vous pourrez trouver toutes les versions des politiques et les nouvelles versions aussi si vous cherchez correctement. Maintenant, nous allons passer aux mises à jour du travail. Avant cela, il y a aussi John Stay et l'avocat qui participe à distance. Merci. Elle est avocate, Lisanne Thomas. Elle va nous donner la mise à jour. Elle appartient au groupe de gouvernance institutionnelle. Elle a partie de plus de 100 réunions du Conseil. Elle conseille des sociétés publiques. Elle fait partie du Conseil d'administration de Cream Donuts. Et elle est membre du comité de gouvernance et du comité de compensation. C'est un plaisir de travailler avec elle parce qu'elle a une vaste expérience en politique de gouvernance corporative. Donc, je vous passe la parole pour que vous nous parliez de votre travail. Merci beaucoup, John. Messieurs, dames, c'est un honneur pour moi de faire partie de cette discussion. Il est trop tôt pour parler des efforts, mais ma diapo vous parle des recommandations et il est juste de dire que ceci constitue une observation préliminaire. Nous allons commencer par le début. Ceux qui passent beaucoup de temps sur la gouvernance corporative doivent savoir qu'il s'agit d'un outil qui facilite la bonne prise de décision sans que les intérêts puissent l'influencer. Le conflit d'intérêts et la gouvernance, on entend des fois que ceci est lié aux bonnes pratiques. Et l'une des raisons pour lesquelles ceci se passe de la sorte, c'est qu'il faut comprendre que les meilleures pratiques ne sont pas communes. Quand j'ai commencé à travailler avec l'ICANN, j'avais déjà travaillé avec d'autres organisations, avec la communauté. Et j'ai remarqué que toutes les régulations avaient besoin d'être adaptées à l'ICANN, compte tenu non seulement de l'activité, cela a été un sujet important pour la prise de décision et pour les propositions. Il y a eu donc un processus révolutionnaire où l'on a établi ce qui était le mieux pour l'ICANN. Nous continuons à travailler là-dessus. Nous passons maintenant à la diapositive suivante. Ce que nous cherchons pour ce qui est de la gouvernance, c'est trois choses, à savoir avoir de l'excellence, cohérent avec l'intégrité et l'éthique. Deuxièmement, la transparence, l'ouverture, la communication et la responsabilité pour ceux qui prennent les décisions. Et finalement, quelque chose que je considère très important pour les organisations du monde entier, que ce soit des ONG, des organisations privées ou publiques. Et bon, bien, établir clairement le rôle pour pouvoir contribuer au progrès de l'organisation, mais bien de fois, il n'est pas clair qui est responsable de quelle chose. Il faut donc établir les rôles et on va faire attention justement à ce point-là pour que les membres tiennent compte de leurs obligations indépendamment de leur provenance. Il faut tenir compte des questions culturelles, entre autres. Avant de définir des efforts ayant été faits, je crois qu'il est temps de faire une pause et essayer de comprendre où est-ce que l'ICANN peut avoir du succès. L'ICANN a beaucoup travaillé le long de son existence. Ce sont des réussites très importantes. Permettez-moi de faire une pause et de vous dire que ce que je le fais pour des compagnies, des sociétés publiques. Mais voici une grande réussite dans le monde des affaires. Nous pouvons dire que l'ICANN est une organisation unique avec des priorités uniques. Par conséquent, ceci doit être apprécié et incorporé aux politiques pour améliorer constamment. Voici un des points qu'il faut tenir compte. Tout d'abord, il y a un modèle de multiples parties prenantes et un processus de développement de politique. Le monde commercial va dans ce sens, mais bien arrière de l'ICANN. Deuxièmement, l'engagement de l'ICANN avec la transparence. Ce que j'ai remarqué à partir des dialogues, c'est un grand engagement si on compare l'ICANN à d'autres organisations, même qu'elles soient même internationales. Nous avons aussi un engagement de la communauté, la diversité de la part des membres du conseil d'administration et de leurs contributions, ainsi qu'une révision de la responsabilité et la transparence. Nous avons également une série de politiques de gouvernance qui sont déjà mises en place. Bien des fois, il a été difficile de définir ces politiques, mais nous soutenons ces recommandations, nous donnons notre appui à tout cela. C'est-à-dire, on a invité des conseillers pour donner d'autres idées. Si l'on pense où est-ce qu'on peut prendre le crédit à partir des choses que l'on a déjà établies. Tout cela est très important parce qu'il ne faut pas commencer de zéro. Pour ce qui est des opportunités ou quel est notre objectif concernant la gouvernance et les conflits? Ici, je vous demande une rétroalimentation, un feedback. Il faut établir le standard le plus élevé par rapport à l'intégrité. Il faut consolider les procédures et les politiques. Nous devons nous assurer qu'ils soient accessibles. Et s'ils n'ont pas accessibles, alors on ne va pas pouvoir les appliquer. Il faudra aussi établir les mécanismes nous permettant de continuer avec la mise à jour et qui nous aide à travailler en parallèle avec les autres organisations. Tout cela est transformé dans un sujet sur lequel il faut travailler. Il y a 5 initiatives qui ont été traitées et soumises aux commentaires du public. Je vais les résumer en disant que l'objectif de ma présentation n'est pas d'entrer en détail par rapport aux recommandations, mais plutôt de vous montrer quelles sont les approches que nous essayons d'envisager. Nous avons proposé une mise à jour de la politique du conseil d'administration par rapport aux conflits d'intérêts. Nous avons aussi demandé la mise à jour ou l'adaptation de la gouvernance corporative, une mise à jour des codes de conduite attendus et mettre à jour aussi la page de gouvernance dans le site web de l'ICANN. Voici quelques points pour commencer. La page de gouvernance dans le site web doit être une page unique où tout le monde puisse comprendre quelles sont les décisions prises, comment ça se passe, où ça commence, où ça finit. La page doit être innovante avec des informations mises à jour permettant de prendre des décisions, une page facile à accéder. Et ceci doit être cohérent avec le monde des affaires et avec les regroupements qui attendent pouvoir accéder à cette information. Ce n'est pas une question de politique, il s'agit plutôt d'avoir l'accès immédiat. Nous avons besoin d'avoir toute cette information et que cette information soit accessible. Je veux signaler aussi l'adoption d'un guide de gouvernance corporative et nous voyons que ceci a lieu avec des différentes entreprises et l'objectif c'est de traiter des questions descriptives et améliorer certains concepts. Couvrir certaines questions, comme par exemple le rôle du conseil d'administration, établir une articulation, faire un résumé des activités du conseil, établir la manière de lire les membres, parler des réunions, faire une révision et établir la planification du conseil d'administration. Il y a d'autres points à traiter, comme par exemple la manière dont les membres du conseil peuvent être pour recevoir des rémunérations, quelles sont leurs fonctions, et cette information est constamment mise à jour. Nous avons également publié une version préliminaire dans le guide de gouvernance. C'est tout simplement une première version préliminaire pour la communauté. Les trois autres points sont révisés, la politique d'intérêt et le code de conduite également. Pour ce qui est de la politique de conflit d'intérêt, eh bien, elle a déjà été publiée et proposée. Et elle établit des procédures pour divulguer l'information et des directives pour les liens et les employés clés. Nous avons tous mettre l'accent sur cette politique et mettre l'accent sur cette politique pour favoriser l'échange. Ce changement, on a fait beaucoup de changements jusqu'à présent pendant ces réunions, mais on peut toujours améliorer toute la dynamique du processus. Je vous donne un exemple rapide du type de politique que nous avons incorporé dans ces processus. Par exemple, employer un cadre peut être invité à ne pas participer. En plus, ce que nous voulons faire, vu l'importance de l'ICANN et de sa position sur le conflit, c'est mettre l'accent qu'il s'agit de conséquences qui peuvent amener au non-respect d'une politique déterminée. Il faut voir aussi un code de conduite des membres du conseil d'administration. Parce que le monde des entreprises doit permettre de voir que le code de conduite s'adapte aux objectifs. L'objectif est de déterminer que les directeurs, les liaisons et le personnel respectent la mission et les valeurs clés de l'ICANN. Pour finir, nous avons les attentes de la communauté et les standards attendus qui sont partagés par tous les membres du modèle des multiples parties prenantes. Voilà, il faut continuer à travailler là-dessus. Il faut travailler pour que tous ces documents soient cohérents à l'interne. Nous devons également parler des différents types de consensus et nous assurer que tous les efforts soient faits de manière correcte et efficace. Je vais passer maintenant à la dernière diapo. Tout simplement, c'est le début. Je tiens à vous remercier de m'avoir permis de participer. Et je voudrais vous dire qu'il faut travailler en collaboration. On a beaucoup de problèmes pour t'entendre par téléphone. Peut-être pourrais-je parler plus lentement et un peu plus fort parce qu'on a des problèmes avec la connexion. Je m'excuse. Je veux être claire. Je m'excuse, mais il est important de considérer tout ce qui vient d'être dit pour que le processus soit constant. Il peut y avoir des changements significatifs liés à la gouvernance, mais je veux que vous compreniez que nous ne sommes pas d'accord sur les questions de gouvernance. et que nous prenons en considération. Sur ce point, je vais finir et je vous remercie de votre participation. Nous avons beaucoup de difficultés à vous entendre. Il paraît que vous êtes en train de finir votre exposé. Peut-être pourrons-nous rétablir la connexion plus tard et finir avec votre présentation. Merci beaucoup. Merci, Lisanne.
Nous allons passer à la prochaine diapo. La deuxième révision est faite par une autre équipe, un autre cabinet juridique. Ce cabinet d'avocats est représenté par Joel Brenner. Ce cabinet s'est engagé à faire une présentation à la Faculté d'économie de Londres et nous allons voir la présentation sur l'écran. Ils vont finir le rapport la semaine prochaine et ce rapport sera publié dans le site web de l'ICANN pour qu'il soit examiné par le conseil d'administration et par la communauté. Deux révisions ont été faites par ce cabinet. La première, une révision de départ dont on a parlé au Dakar. Nous avons vu où est-ce que les documents pouvaient être retrouvés. Ils ont vu qu'il y avait des problèmes par rapport aux documents sur le site. Ils nous ont recommandé de centraliser donc la documentation au niveau de la page Internet. La deuxième recommandation, c'est une comparaison entre l'ICANN et une ONG ou une organisation internationale. Une organisation intergouvernementale. En ce moment, le cabinet finit son rapport dans la matière et ce sera publié prochainement. Ils ont fait aussi une comparaison entre ces entités que je viens de mentionner. Voilà la deuxième partie de la révision. Nous allons voir par la suite la troisième révision. Et si German Brooks est en ligne, espérons avec une meilleure connexion, nous allons pouvoir parler sur le groupe qu'il a constitué, un groupe d'experts internationaux. Et Jeremy Brooks pourra peut-être nous donner des informations sur les membres de ce panel de révision. Ils feront la présentation et puis il y aura un moment pour vous poser des questions. Jeremy, vous êtes au téléphone? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien dans la salle? Merci, Jeremy. Vous avez la parole. Notre travail est basé sur la résolution du conseil d'administration. Sur l'éthique, les conflits d'intérêts, le code de conduite et de confidentialité et comment tous ces aspects peuvent être améliorés. Dans cette résolution, il a été décidé de constituer un groupe d'experts internationaux pour faire un suivi du travail des deux équipes de juristes dans le but de voir, réviser la fonction globale de l'ICANN et analyser les meilleures pratiques internationales pouvant être appliquées à l'ICANN sur la base de ce qui a été présenté par la deuxième équipe de juristes avec une perspective un petit peu différente. Le groupe d'experts internationaux que nous constituons est intégré par trois experts représentant différents points géographiques et issus de différents environnements professionnels. Monsieur King, c'est un juge sud-africain qui est à la retraite. C'est le roi de la gouvernance d'entreprise, si vous voulez, car il a été responsable d'un grand nombre de rapports, connus sous le nom de rapport King, portant sur des compagnies en Afrique du Sud. Il est vraiment très renommé au niveau international. Il a travaillé avec l'initiative de rapport global. Il a été président honorifique. Il en est président honorifique en ce moment. Et il travaille dans une initiative internationale qui s'appelle l'initiative de reporting intégré. Monsieur King préside cette initiative. Nous avons donc un expert qui représente en grande mesure le continent africain. La deuxième personne est le monsieur Kramer, connu en Californie comme le président et le PDG d'une organisation à but non lucratif consacré au business avec responsabilité sociale et qui travaille sur la durabilité et la responsabilité sociale d'entreprise. C'est une organisation à but non lucratif et donc M. Kramer est familiarisé avec les deux modalités de travail des organisations des à but non lucratif et à but lucratif. Moi-même, Jeremine Brooks, je suis comptable. À la base, j'ai été responsable de la fonction dans Pricewaterhouse et au fil des années, j'ai travaillé dans plusieurs départements dans différents pays, dans Pricewaterhouse et puis dans PricewaterhouseCoopers. En donnant conseil aux entreprises sur plusieurs sujets, y compris la gouvernance d'entreprise. Après ma retraite, j'ai eu une grande expérience dans le monde des organisations non gouvernementales et dans les organisations intergouvernementales, ainsi que dans une large éventail de sociétés qui demandent à avoir des conseils en matière de transparence, de gouvernance d'entreprise et dans la transparence internationale. C'est-à-dire l'organisme dans lequel je travaille depuis 10 ans. C'est là où nous examinons la meilleure façon d'aborder les problèmes en matière d'éthique, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes de corruption. Voilà les antécédents professionnels des intégrants de notre panel d'experts et nous espérons pouvoir donner des recommandations au conseil d'administration de l'ICANN à partir de notre expérience. Ces recommandations serviront à donner de la crédibilité à l'ICANN au niveau international. Ce que nous avons suggéré, nous sommes sur le point de finir le brouillon de ce document pour l'ICANN, c'est-à-dire que nous sommes au début du processus. Nous avons suggéré donc que le travail formel se fasse en 3 étapes dans les mois à suivre. Tout d'abord, collecter des informations et diagnostiquer quels sont les problèmes à résoudre. Nous espérons finaliser cette étape vers la fin mars et le début avril. La 2e étape consistera à échanger des idées sur le développement des recommandations. Cette étape aura lieu au mois d'avril jusqu'au début du mois de mai. Et finalement, la 3e étape consistera en des présentations au conseil d'administration et au cadre de l'ICANN. Nous croyons qu'il s'agit d'une étape importante pour que nos recommandations puissent être bien comprises et pour que l'ICANN soit convaincu par rapport à nos recommandations. Il y a un avant-projet de nos recommandations qui sera présenté du 7 au 9 mai à Amsterdam au conseil d'administration et par la suite on fera une présentation finale début juin. Entre-temps, il y aura bien sûr des débats avec les cadres au cours desquels nous allons pouvoir recueillir leurs commentaires par rapport à notre présentation préliminaire du mois de mai. Voilà le processus en termes généraux. Finalement, je voudrais dire quelque chose par rapport aux différents domaines que nous allons aborder dans ces rapports. De manière générale, il faut voir comment améliorer la légitimité de l'ICANN en tant qu'organisation d'intérêt public. Vous savez tous ou vous êtes au courant des critiques dont fait l'objet l'ICANN ainsi que des louanges que l'ICANN reçoit de par son travail. Mais en général, il y a des critiques et c'est pourquoi le but est d'améliorer la légitimité de l'ICANN. Nous allons tout particulièrement nous concentrer sur les mêmes domaines qui ont été déjà cités auparavant, c'est-à-dire comment améliorer l'indépendance, la transparence, la responsabilité du conseil d'administration. Nous allons de même étudier les codes de conduite, notamment en ce qui concerne la politique de conflit d'intérêts du conseil d'administration, mais aussi le conflit d'intérêts au sein du personnel de l'ICANN. Tout cela nous amène dans un domaine un peu contentieux de la nomination des membres du conseil d'administration et le processus de nomination du comité de nomination du conseil d'administration. En outre, un autre point important qui a donné lieu à des inquiétudes parmi les membres du conseil d'administration a été quelles sont les activités qui devraient être prémises avant et après les mandats et avant ou pendant la période de travail du personnel, d'embauche du personnel. Et là, il faut revoir les politiques de rémunération pour savoir comment, pour voir comment peut-on convaincre le conseil d'administration et les membres du personnel une fois leur mandat fini par rapport à certaines conduites ou comportements vis-à-vis de l'ICANN. Je vais finir ma présentation ici et je suis disponible, bien sûr, pour répondre à vos questions par rapport à cette approche. Nous essayons qu'il y ait une composante internationale dans l'ICANN qui soit conforme à la nature internationale de l'organisation. En plus, nous essayons d'aller au-delà des meilleures pratiques juridiques pour analyser les standards éthiques et revoir les codes de conduite du point de vue de l'objectif de maintenir une bonne perception de ces standards, car il s'agit d'un élément clé pour l'acceptation et la légitimité de l'ICANN dans ce domaine aussi important. Ceci dit, je vais finir ma présentation et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci, Jermaine. Liz, êtes-vous encore en ligne? Êtes-vous encore connectée? Apparemment, elle n'est plus connectée. Nous pourrions donc passer aux réponses, si vous êtes d'accord, Monsieur le Président. Oui, mais avant cela, il serait intéressant de résumer tout ce qu'on a entendu. On a mentionné les trois étapes, mais quand est-ce que ces révisions seront prêtes pour que la communauté puisse les voir? Et quand la résolution du conseil d'administration sera-t-elle prête? Tout le travail devra être fini avant la réunion de Prague. Pour le premier groupe, le travail continuera peut-être parce qu'il s'agit de juristes d'entreprise et nous allons continuer d'améliorer les questions liées au conflit d'intérêts et à l'éthique. En ce qui concerne le travail du cabinet juridique Cooley, leur étude sera publiée sur la base des commentaires et ce sous-comité continuera de travailler s'il le faut. Et s'il faut, présenter un nouveau rapport. Et en ce qui concerne le dernier groupe d'experts qui travaille sur la question de l'éthique, comme M. Brooks l'a dit, ce dernier groupe va présenter son rapport après consultation au conseil d'administration après Prague ou avant Prague. Je sais que nous sommes assez contraints au niveau du temps, mais je ne sais pas si mon collègue Ray voudrait dire quelque chose avant de passer aux questions. Oui, très rapidement, en plus de tout ce qui a été présenté ici, comme nous l'avons dit, notre réunion Dakar, on prend tout cela au sérieux. Mais il y a d'autres choses que l'on fait en parallèle à ce processus. Cela implique d'améliorer la prise de conscience des membres du Conseil par rapport au conflit, la perception des membres du conseil d'administration par rapport au conflit, améliorer cette question au sein de notre culture. Nous révisons des activités qui ont eu lieu dans ce domaine. Nous examinons des améliorations au niveau de la formation. Merci beaucoup. Merci, chère Reine. J'aimerais dire que pour moi, C'est un élément clé, car le modèle de multipartie prenante est un grand enjeu et il est très important que les experts ayant une grande expérience dans le domaine du DNS puissent y participer. Certains de ces experts sont issus du secteur de l'industrie du DNS et cela représente un véritable défi pour éviter les conflits d'intérêts. Je crois aussi qu'il est important que la communauté dans son ensemble réfléchisse par rapport à ces pratiques. Et pour le moment, je pense que le plus important, c'est de comprendre quelles sont les actions que le conseil d'administration va mettre en place, ainsi que les mécanismes de révision que l'on mettra en place pour continuer de nous améliorer. Merci. On passe aux questions. Je crois que Lisiane est connectée. Nous allons donc compter parmi nous Lisiane et Jermaine pour répondre aux questions du public. Je suis Mikey O'Connors, membre du regroupement commercial, mais je parle ici à titre personnel. Moi aussi, j'ai travaillé pour plusieurs des cabinets comptables les plus importants au niveau international et ma réaction face à cette présentation, c'est que cela doit coûter très cher. C'est une espèce de mine d'or, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de plans de travail, de documents à créer. Je suppose que cela est nécessaire. Mais entre-temps, permettez-moi de vous dire une politique d'éthique qui se résume en une seule phrase. Quand je travaillais pour un cabinet comptable très réputé au niveau international, un partenaire m'a raconté une anecdote et je m'en sers toujours. Je raconte cette anecdote dans des travaux où je suis chargée de superviser des milliers de personnes. Pensez, indépendamment de votre pays, pensez ou imaginez le rapport d'enquête le plus merveilleux qui puisse être publié à la télé ou le journaliste le plus important. Dans mon pays, ce serait Mike Wallace. Et mon chef m'a dit, Mike, on va utiliser la preuve de Mike Wallace. Si tu peux être devant une caméra de télévision et être interviewé par Mike Wallace sur ton comportement et ça se passe bien, ça va être éthique. Et si tu t'imagines dans cette interview faite par ce journaliste aussi réputé, aussi brillant, et que ça ne se passe pas bien, alors ça, ce n'est pas éthique. Je ne vais nommer personne, mais vous savez tous de qui je parle, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et certains comportements n'ont pas passé ce test de Mike Wallace. Je vois donc qu'il y a des règles très strictes sur le fait d'accepter de prendre un verre avec le membre du personnel de l'ICANN. Et je dirais que s'il arrive un point où l'on accepte un coca ou une bière, on passe ce test de Mike Wallace, mais dans d'autres circonstances, on ne passe pas ce test. Alors, même s'il y a tout ce travail en cours, peut-être que vous pourriez réfléchir à ce que je viens de dire. C'est très important. Le premier orateur a signalé une notion, et je vais citer ses propos pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Elle a dit la chose suivante. Un ton cohérent. Elle a parlé d'un ton cohérent lorsqu'on travaille en matière d'éthique. Je pense qu'un ton cohérent est très important pour travailler en éthique. Le message doit être simple pour que les gens puissent s'en souvenir. C'est l'un des points les plus positifs par rapport à ce test de Mike Wallace, ce journaliste dont j'ai parlé. Tout ce plan, toute cette structure intergalactique va vous donner comme résultat quelque chose d'aussi compliqué que personne va savoir ce qu'il doit faire. Voilà ma réaction par rapport à ce qui a été dit. Merci. Je suis Andrea Glorioso. Je travaille et je parle au nom de la Commission européenne. Je voudrais bien préciser que je parle au nom de la Commission européenne et non pas au nom du GAC. Je crois qu'il faut féliciter le conseil d'administration pour le travail qui a été réalisé et nous attendons les résultats. Or, il est bon de dire que le conseil d'administration, dans sa résolution du 28 octobre 2011 à Dakar, a dit qu'il faut faire une révision initiale et qu'il faut soumettre aux commentaires publics pour le mois de janvier et que ces commentaires devront être présentés au comité de soutien pour février 2012. Et par la suite, ça doit être approuvé par le conseil d'administration. L'approbation du conseil d'administration, on ne l'obtiendra pas avant Prague. Et la communauté espère recevoir une explication de pourquoi on n'est pas arrivé à une solution. Si vous vous souvenez de la réunion du Dakar, il y a eu un engagement fait parce que le comité de soutien gouvernemental a fait des demandes spécifiques, car il y a eu une demande très spécifique. Tout cela a été perçu comme une priorité. Ce retard de 3 mois fait que les choses ne soient pas vues comme une priorité. La Commission voudrait que les résultats des révisions soient publiés. Je viens de regarder la page de consultation mentionnée par le conseiller juridique de l'ICANN. Et la seule chose que j'ai vue, c'est une proposition de modification du texte juridique, mais je n'ai pas vu le texte complet de la révision qui nous a amené à faire cette révision, cette modification. Pardon. Donc, si vous voulez des consultations et des commentaires, il faut déjà que vous nous fournissiez le texte finalisé de la révision. Espérons que ce soit avant Prague. Merci. Je suis Gus Brokely. Je parle en mon propre représentation. J'ai un commentaire à faire. Il a été dit que l'ICANN avait obtenu une note très élevée en termes de transparence. Je me demande si on pourrait envoyer un email au registrant, car 95% des ressources financières de l'ICANN viennent des registrants. Comment se peut-il que le conseil, que l'ICANN ait une note de transparence en matière de transparence aussi élevée alors que la partie la plus importante du travail n'a pas encore été faite? Y a-t-il des réponses à ça? Je pense qu'on vous a écouté déjà. Mais la réponse est beaucoup plus compliquée. Qu'est-ce que vous pensez? L'ICANN n'a pas l'information ou les noms de tous les registrants et nous ne pensons pas que ce soit approprié de le fournir en ce moment. Alors, je vais envoyer un email pour que cette information soit mise à jour au plus tôt possible et que demande soit répondue. Je pense qu'il y a d'autres façons de voir les informations du WHOIS et je vous prie de utiliser ces modalités pour nous faire parvenir vos commentaires. Monsieur Beckstrom a fait un commentaire sur le bien public et sur les intérêts publics. Donc, j'aimerais que l'on puisse définir ce que vous comprenez lorsqu'on parle d'intérêt public ou de bien public. L'ICANN est une organisation à but non lucratif public basée à Californie aux États-Unis et agit dans le cadre de la loi. Il y a eu un grand débat au sein de l'ICANN sur la mission et les objectifs de l'ICANN. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question, sinon vous pouvez la formaliser par écrit, votre question. Bonjour, je suis Chris Will. Je suis l'ombudsman d'ICANN. Et je voudrais surtout faire un commentaire sur le travail qui a été réalisé. En tant qu'ombudsman, Je rappelle aux membres de la communauté que le rôle de l'ombudsman est d'enquêter par rapport à ces questions. Très souvent, au lieu d'écrire un blog avec des critiques ou d'écrire sur Twitter quelque chose, il y a une méthode plus spécifique pour se plaindre pour que l'on puisse de façon indépendante enquêter par rapport aux problèmes soulevés. Voilà ce que je voulais dire par rapport à mon activité en tant qu'ombudsman. Si vous avez des consultations ou des questions, vous savez où me trouver. Merci. Je suis Janet Suslan, du personnel de l'ICANN. Je parle en représentation de la participation à distance. L'ICANN a publié des incidents sur l'intérêt public. Par exemple, en 2006, il y a eu un procès verbal d'une réunion où M. Bernstein et Binney ont voté sur un sujet sur le point org. À l'époque, M. Chef était un membre actif du conseil d'administration et il a voté. Très bien, nous pourrions envoyer cette question au réviseur pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire. Je suis Marilyn Cade. J'aimerais. Je ne vais pas dire que je me fais l'écho des mots, mais plutôt de la déclaration de M. Mike O'Connors. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'en tant que président du regroupement commercial, même si je ne parle pas en tant que tel, je souligne que la question du conflit d'intérêts et de l'éthique est une question clé. Nous travaillons quotidiennement sur ce sujet. Si nous ne nous comportons pas de façon éthique avec nos clients, nous endommageons la nature même de notre rapport et nous encourons des risques. Nous savons que nous devons être compréhensibles. Lorsque vous expliquez les résultats auxquels vous voulez parvenir, une approche de multiples étapes ne va pas nous donner la perspective de savoir vers où nous voulons aller, parce que nous sommes tellement focalisés à comprendre les différentes étapes, les différentes couches, que nous restons coincés là-bas et nous perdons de vue le travail à faire. Je dis cela parce qu'en lisant le document, il est clair que ces standards que l'on essaye d'atteindre s'appliquent à nous aussi. En tant que membre du groupe de multipartis intéressés et en tant que parti impliqué dans le développement de politique. Je suis vraiment très enthousiaste par rapport à ce chemin que nous avons choisi et je tiens à vous féliciter pour le travail que vous avez fait et vous exprimer mon soutien. Je nous félicite de la possibilité qu'on a de pouvoir discuter de ces sujets pour que nous tous, dans notre travail quotidien dans l'ICANN, que ce soit des participants ou des membres d'un regroupement ou des membres d'une organisation de soutien, nous avons tous besoin de mettre en place ce type de politique et de bien les comprendre. Et par la suite, nous impliquer dans le débat pour savoir comment peut-on redéfinir cette question pour que ce soit plus compréhensible et moins compliqué, et ceci afin de pouvoir atteindre les objectifs établis. Mon dernier commentaire, c'est que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que nous pouvons avoir un conseil d'administration au sein de l'ICANN qui n'ait pas de conflit. En réalité, je crois que nous devons informer les participants du conseil d'administration et cela parfois impliquera que les membres du conseil d'administration fasse l'objet de conflits. Or, il y a un engagement pris pour établir les paramètres de sécurité nécessaires pour résoudre ces conflits. Merci.
Merci, Marilyn.
Paul Ferdy, à nouveau, je me demande si quelqu'un pourrait m'expliquer les raisons pour lesquelles l'ICANN garde en secret le nom, la quantité de demandes de candidature. Cela serait informé plus tard. Oui, mais essentiellement, on parle des conflits d'intérêts. Et étant donné qu'il y a eu un grand nombre de candidatures qui ne seront pas remboursées si elles sont refusées, n'aurait-il pas un conflit d'intérêts dans le fait que l'ICANN garde ce chiffre secret si ces candidatures ne sont pas approuvées? Cette question a été déjà posée dans d'autres forums et dans d'autres séances et elle a été répondue. La réponse a été apportée avant et je crois qu'on pourrait dire qu'il pourrait y avoir une mauvaise représentation de la quantité basée sur l'identification uniquement. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner les informations. La quantité de personnes dans le système nous donne une idée de ce qui a été payé, mais ça ne nous donne pas une idée du nombre de candidatures qui ont été présentées. On attend à ce que les demandes de candidature qui ont été payées soient remboursées avant la fin de la période d'appel à candidature. J'espère que les experts que nous avons dans le panel pourront répondre à votre question. Il n'y a plus de questions. Donc, je me demande si Lisanne ou Jeremy voudraient poser des questions ou faire des commentaires. Le premier orateur. Est inquiet par rapport au nombre d'heures qui représenterait un coût très élevé. Ce coût aura un impact car les délais ne sont pas longs, mais je crois et j'espère que cette inquiétude pourra être dissipée. En ce qui concerne les points qui ont été soulevés par les orateurs, il y a un point important, à savoir les recommandations qui ont été faites et qui ont donné lieu à un travail vraiment très complexe et compréhensible. Le point de départ serait de considérer les principes au lieu de considérer les règles. Pour arriver au sommet, il faut exprimer les choses de façon simple pour qu'elles puissent être comprises, afin de pouvoir mesurer les comportements de façon individuelle au lieu de considérer, parler de la règle numéro 7 et si cette règle est applicable ou pas à un comportement particulier. Ce serait mieux de procéder de cette façon et cela nous permettra de parvenir à des réponses plus claires. En ce qui concerne le dernier commentaire, on ne peut pas éviter les conflits d'intérêts. On peut réduire les situations de conflits d'intérêts. Et pour ce faire, il faut avoir un processus pour pouvoir gérer ces conflits. Même si le nombre de conflits est réduit, il en subsistera toujours quelques-uns. Mais la question est de savoir les gérer de façon transparente, conformément à des principes cohérents et facilement compréhensibles. C'est l'un des points qui a été soulevé par un orateur qui a parlé de la formation au niveau des membres du conseil d'administration. Ce serait très important. Ce sont des éléments dont on doit tenir compte pour pouvoir avancer dans notre travail. Je suis Lisanne, j'ai quelques points par rapport auxquels je ne suis pas d'accord, je suis en désaccord. notamment en ce qui concerne la formation, pour que l'on comprenne comment ces politiques seront appliquées. Pour ce qui est des documents qui sont soumis aux commentaires publics, je veux préciser que nous avons posté 5 documents soumis aux commentaires publics et tous ces documents sont issus de notre travail en matière de recommandations. Il y a d'autres travaux en cours qui dépendent de la continuation des discussions avec d'autres conseillers. Il y a des changements qui sont déjà disponibles pour être commentés ou révisés. Et c'est tout pour le moment. Je crois qu'on a encore une question. Je vous prie d'être bref, parce qu'on a dépassé déjà l'horaire. Merci. Je suis le représentant de la Commission européenne. Je m'excuse d'intervenir à nouveau, mais il y a quelque chose que j'ai oublié. Quand j'ai regardé la salle et que j'ai comparé le nombre d'assistants ici et dans d'autres salles, j'étais déçue de voir un si petit nombre d'assistants dans cette salle. Ça m'inquiète parce que c'est pour le conseil d'administration de l'ICANN et pour le personnel de l'ICANN. Donc je vous demande, je vous prie de vous assurer que le débat ait lieu par rapport à ce qui se passe au niveau du conflit d'intérêts. Vous pouvez recevoir les commentaires des gouvernements, mais peut-être pas d'autres parties appartenant à la communauté. On ne peut pas critiquer les gouvernements parce qu'ils interviennent dans les processus si vous n'y intervenez pas vous-même. Les gouvernements ont l'obligation d'intervenir et de superviser les organisations comme l'ICANN pour qu'elles continuent d'être indépendantes. D'après notre point de vue, il s'agit d'une obligation pour la communauté aussi. Et si la communauté ne le fait pas, les gouvernements devront le faire à leur place. Je vois ici une salle où il y a 10% de toutes les personnes qui devraient y être. Donc on doit demander au regroupement d'assister à cette séance pour qu'ils puissent exprimer leurs commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je voudrais faire un commentaire très rapide. C'est un point vraiment très intéressant. Moi aussi, je suis un peu déçue car il y a très peu de personnes qui assistent à cette séance. Je voudrais bien que l'on puisse capter l'attention de davantage de personnes, mais on va s'assurer que tous ces documents soient reçus par tout le monde. Une question rapide. Je suis Bertrand de la Chapelle. Je suis membre du conseil d'administration de l'ICANN. Ce n'est pas une question, mais plutôt un commentaire. J'aimerais revenir au commentaire fait par Andréane. La façon dont on interprète le nombre de participants ici présents, c'est une possibilité qui peut être correcte. Mais il y a une autre façon d'interpréter cette situation, à savoir, il y a un progrès qui implique que les gens ont bien compris ce que l'ICANN fait et que les gens ont compris le message que le conseil d'administration prend cette question au sérieux. Nous sommes sous le regard de la communauté et c'est ainsi que cela doit être. On doit prendre cette affaire au sérieux et moi je serais plutôt tentée d'interpréter que le nombre d'assistants ici présents ainsi que la diversité de gens ici présents témoigne du fait que maintenant, la communauté, y compris le GAC et autres, attendent de voir ce que nous sommes en train de faire. Et nous devons le faire. Je crois que la présentation était très claire en ce qui concerne l'importance accordée à ce sujet. Mais je n'interpréterai pas le petit nombre d'assistants ici présents comme étant une preuve de manque d'intérêt. Je pense plutôt que la communauté est très intéressée à ce sujet. Le conseil d'administration s'intéresse aussi à cette question et j'espère que dans les mois qui viennent, nous allons pouvoir répondre aux questions qui ont été posées ici aujourd'hui. Merci Bertrand. J'aimerais remercier tous ceux qui sont présent dans cette réunion. J'aimerais m'assurer que tous ceux qui ont des suggestions ou des questions puissent les poser. En ce qui concerne le test de Wallace et les complications des règles, permettez-moi de vous dire que le groupe ici présent continue de travailler. Nous basons sur les principes et nous allons bien sûr appliquer le test de Wallace. Marilyn, merci pour votre commentaire. La règle ne doit pas être trop complexe afin que tout le monde puisse la comprendre. Nous en tiendrons compte. Merci à tous. Merci aux orateurs. La séance est finie. Merci.